Vous écoutez RTL.
On va se passionner pour les parfums de légende.
Ah,
vous allez découvrir comment Coco Chanel a révolutionné ce métier avec le Chanel numéro 5. Vous allez comprendre pourquoi le flacon d'Angel de Thierry Mugler a été un casse-tête pour les verriers. Il y aura aussi des parfums pour hommes, vous verrez.
Ce sera vers 14h30. C'est Guerlain en fait, voilà, ça vient de me revenir.
Bah, on adore.
C'est la senteur qui compte, hein.
Voilà, c'est
pas
ça.
Le créateur, c'est vrai.
Merci à vous deux.
Et tout de suite, on monte sur nos skates dans la curiosité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
T'as rien compris, c'est dans la tête. T'as pas le spirit pour faire du skate.
Ça veut dire que tu vas où tu veux. Non mais c'est génial, c'est la liberté.
La curiosité est un vilain défaut.
Et tout ça, tu trouves dans le skate.
Sur RTL.
Le skateboard, symbole de liberté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour une heure de découverte sur RTL. Une heure pour apprendre en s'amusant, pour se cultiver dans la bonne humeur.
Et toi, Thomas, t'as le spirit pour faire du skate?
Bien sûr. Si vous me voyez sur un skate, on va pouvoir rigoler.
Tellement.
Ah non, c'est gamelle garantie.
Salut les curieux, vous le savez, dans cette émission, on aime varier les plaisirs et s'amuser. Et on va continuer pour cette cinquième saison. Demain, par exemple, on vous propose une immersion au cœur des douanes françaises. La semaine prochaine, on va se confronter aux animaux prédateurs, on va découvrir le destin brisé d'Amy Winehouse et aussi vous raconter l'histoire, tout simplement, de l'écriture.
Et donc, on remonte tout de suite à l'origine du skateboard, en bon français, la planche à roulettes. Bonjour Gaëtan Morin.
Bonjour Thomas, bonjour Sidonie.
Salut Gaëtan, ravi de vous retrouver.
Vous êtes chef de service au Parisien Weekend, vous publiez donc un article sur ce sport en partenariat avec RTL, car c'est un sport.
Ah oui, oui, c'est un sport. C'est très athlétique.
Je sens de la moquerie dans votre regard.
Vous devriez essayer, Thomas.
Je fais plein d'autres sports.
Il faut tenir sur sa planche, il faut faire des figures.
Voilà, alors il y a deux options. En tout cas, pour les disciplines olympiques, il y aura deux options. Il y a l'option ball. Alors, ball comme bol en français.
Ouais.
Donc, vous imaginez un bol, une piscine, une cuve, ce que vous voulez. Mmh. Et en fait, les riders, donc les skaters se lancent pour glisser en fait sur les bords du bowl.
Mmh.
Et
ils font des figures.
Ils font des figures.
D'accord. Donc ça c'est la première option.
Ouais. Il y a une option tweet. Il y a beaucoup d'anglais. Hein.
Ah bah ça.
Je me suis pris la tête avec l'anglais.
Ceux qui chassent les anglicismes, on essaie de faire attention ici.
L'option rue.
Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et là pour le coup c'est plus des modules. Donc il y a des rampes, des murs, des parapets, enfin des tas de petits modules pour skater et donc glisser sur ces modules.
Donc vous l'avez dit, sport olympique, parce que c'est ça la nouveauté, ça sera
grande nouveauté
pour les prochains Jeux Olympiques.
Tout à fait. Le skateboard a été reconnu olympique, donc il intégrera les Jeux de 2020 à Tokyo, sachant qu'en fait le CIO avait pour ambition de rajeunir l'audience des Jeux Olympiques.
Ah oui.
Et depuis la création des X Games, qui sont des espèces de Jeux Olympiques de sport extrême, en fait, qui n'ont d'habitude pas place dans les sports olympiques en tant que tels. Et bien depuis cette création dans les années 90, ça a pris un essor énorme auprès des jeunes, et donc le CIO avait tout intérêt à essayer de capter un peu de cette audience. Donc ça intègre les Jeux Olympiques en 2020.
Et Gaëtan Morin, c'est ce week-end à Marseille, il y a une compétition de skateboard, ça s'appelle le Red Bull Ball Ripers. On pourra y voir quel type d'épreuve?
Alors, bah là, pour le coup, que le ball.
Que le ball, donc
oui.
le bold, voilà.
Donc cette espèce de... Vous imaginez, hein, c'est une espèce de cuve, en fait. Et donc, du coup, les skaters se lancent comme sur des rampes, sauf que c'est très arrondi. Et Red Bull y ajoute, ce qui ne sera pas le cas au programme olympique, y ajoute des petits modules pour créer de nouvelles figures, en fait. Donc il peut y avoir, par exemple, là je crois que ce sera le cas à Marseille, il y aura une rampe en plus. Et donc, en fait, les skaters, quand ils se lancent, ont un temps limité pour faire leur programme, un peu comme en patinage artistique, si vous voulez une comparaison. Mmh. Ils ont un programme libre et en fait, ils sont notés sur les figures et la réalisation du parcours dans ce temps.
Et les Français sont bons en skateboard? On a vraiment des super bons athlètes qu'on va retrouver à Tokyo, notamment en 2020?
Alors, puisqu'il y a Tokyo en 2020, on a créé une Team France, qui n'existait pas encore vraiment en tant que telle avant. On a quelques jeunes talents. Parmi eux, il y a notamment une jeune fille qui s'appelle Shani Brou, qui est vice-championne d'Europe. Et dans les garçons, il y a trois noms: Vincent Matteron, Robin Bollian et Aurélien Giraud. Après, on ne va pas se mentir, hein, les meilleurs, c'est les Américains.
Et justement, on va raconter une histoire et une logique d'Américains, puisque votre article du Parisien Weekend nous fait voyager dans le temps jusqu'au début des années 70 en Californie. Alors, c'est là que l'histoire du skateboard, enfin en tout cas que le vrai décollage du skateboard prend
exactement.
Sa source, c'est ça.
En tout cas, c'est là que le skateboard devient aérien. Ouais. Jusqu'ici, il était collé au goudron, quoi. Vous imaginez une planche en bois brut, quatre roues en argile. Donc en plus, c'est pas très maniable, ça adhère mal aux surfaces poreuses ou accidentées.
C'est un moyen de transport, en fait, au début, le skateboard.
En fait, à la base, le skateboard, c'est du surf sur asphalte. C'est quand même très influencé par la culture surf. Et en fait, comme parfois les vagues étaient un peu molles ou un peu petites, ils s'y retrouvaient pas, donc ils ont développé la planche à roulettes pour l'adapter sur l'asphalte.
Donc le premier skate, c'est quoi, années 50,
c'est ça? C'est ça. Alors on ne sait pas exactement dater, ni la date, ni l'inventeur vraiment de la planche à roulettes. Mais en gros, c'est fin des années 50, début des années 60. Et puis, ça prend vraiment son essor dans les années 70.
En 72, il y a une petite révolution technologique.
Grande révolution, en fait.
Ça change tout pour le skateboard, la planche à roulettes.
Et bien, la roue devient en uréthane. Alors c'est un matériau un peu différent, mais qui permet une meilleure adhérence et qui s'use beaucoup moins. Donc désormais, la planche à roulettes ne se bloque plus au moindre caillou et du coup, les gadins sont quand même un peu plus limités. Et en fait, il y a une bande de trois jeunes garçons, qui va du coup créer à partir de ça une nouvelle pratique du skateboard. Et c'est cette histoire qui est la belle histoire à l'origine du skateboard aujourd'hui.
Qui c'est qui a l'idée de cette matière plastique ultra adhérente là, pour faire évoluer le skateboard et le faire adhérer?
À l'américaine, c'est un jeune étudiant qui était en Virginie, et puis il vient passer des vacances en Californie, il avait envie de se mettre au skate. Il connaissait la matière, donc l'uréthane, cette matière dont je viens de vous parler. Et du coup, il décide de créer des petits trous en uréthane et il investit toutes ses économies.
Mais tout seul dans son garage, quoi.
Tout seul dans son coin, ouais. Il investit ses économies de $700 auprès d'une usine et il commence à commercialiser ses roues qui ne sont commercialisées à l'époque, dans les années 70, que de boutique en boutique, de surf shop en fait. Et puis le bouche à oreille est tel que finalement il va vendre la commercialisation de ses roues à une grande entreprise spécialisée dans le surf et dans le skateboard. Et là, ça va être un boom incroyable puisqu'il vendait 300 000 paires à l'année au début des années 70 et ça devient 20 millions de planches par an, par mois même.
Par mois. Ah oui, donc c'est aussi une histoire de business et de fortune qu'on vous raconte. Et donc, l'histoire de trois personnages. Je vais prononcer leurs noms et vous allez nous les présenter dans un instant, Gaëtan Morin. Jay Adams, Tony Alva, Stacy Peralta, trois garçons, trois potes, ils vont révolutionner le skateboard. Restez.
Los Angeles, la Californie, berceau du skateboard.
Jusqu'à 15h.
C'est pas du football, c'est pas du baseball, c'est une façon de vivre.
RTL. Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur la musique d'Avril Lavigne, Skater Boy, ça vous rappelle peut-être votre jeunesse ou la jeunesse de vos enfants, qui sait, à la découverte des origines du skateboard avec la journaliste Gaëtane Morin en partenariat avec le Parisien Weekend. Dans le numéro à paraître demain, on peut lire votre article passionnant, très bien écrit sur l'origine du skateboard. On est aux États-Unis, en Californie, avec cette chaleur et tous ces gens qui ont envie de créer, d'inventer et de s'amuser. On est à la fin des années 70 et il y a trois garçons qui vont révolutionner ce sport. C'est Jay Adams, Tony Alva et Stacy Peralta. Qui sont-ils?
Alors, il faut s'imaginer quand même l'Amérique des années 70. La carte postale. Ils sont vraiment sur la côte californienne, de Santa Monica à Hermosa Beach, un peu au sud. Donc, près de Los Angeles. Ils font du surf. Généralement, juste avant les lueurs du jour, les premières lueurs du jour. Et puis, ça leur suffit pas. Ils sont assez oisifs, des foyers un peu déficients. Les parents ont du mal à joindre les deux bouts. C'est des quartiers pauvres de Los Angeles. Pour s'occuper, ils transposent le surf sur asphalte. Et comme les nouvelles roues viennent d'arriver...
Uréthane ?
Exactement. Ils ont décidé, pour eux, c'est la liberté, quoi. Ce moyen de transport et ce jeu, puisque c'est aussi un jeu, c'est la liberté. Et donc, ils arpentent les rues de Los Angeles avec leur petit skate, ils sautent par-dessus les poubelles, ils ils essayent de griller le feu rouge, enfin bref, ils se lancent des défis tous les trois. Alors ils appartiennent à un team de, une équipe de compétition en fait, qui a été montée, parce qu'il y en avait plusieurs à cette époque-là, qui a été montée, et donc du coup ils sont quand même une dizaine de gamins, mais les trois de, que l'histoire va retenir, c'est ces trois-là.
Mais à quel point ça devient, parce que vous nous avez décrit le succès, la fortune faite par ce, cette étudiante de Virginie, Frank Nasworthy, qui développe le skateboard avec cette nouvelle technique pour les roues. Donc, il y a des millions de skates qui sont vendus. Ça devient un phénomène culturel, contre-culturel, c'est une contre-culture le skate ?
C'est ça, ça devient en fait un vrai art de vivre. Il y a plein d'images qui sont associées à ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le style vestimentaire de ces garçons, souvent c'est plutôt des pantalons un peu loose, des t-shirts graphiques, vous imaginez du coup les tatouages, vous imaginez aussi les tennis de toile spécifiques au skateboard qui vont être inventés dans les années 70 je crois, notamment par la marque Vans. Ouais. Il y a du coup pas mal d'entreprises, dont Vans, qui vont flairer le bon filon et du coup créer des vêtements spécifiques à cette mode qui sera une mode Jones, une mode punk. Il y a une musique qui va se développer liée à ça, qui est aussi le punk, le skate punk. Exactement. Alors qui est du coup une musique très rythmée, très forte, très agressive.
Comment ils vont grandir dans ce sport, nos trois héros, Jay, Tony et Stacy?
Alors eux, de toute façon, c'est les contestataires et les rebelles. Donc quand ils se présentent au concours, au départ, ils font des pirouettes que personne ne connaît, ils s'envolent quand tout le monde reste collé au goudron. Donc forcément, à noter, c'est pas simple. Donc au départ, on peut pas dire qu'ils soient très appréciés dans le milieu. Mais voilà, ils s'en fichent. Donc ils continuent, et au bout d'un moment, finalement, ils arrivent à s'imposer et à faire reconnaître leur figure, puisqu'ils inventent des figures.
Ouais. C'est un sport masculin quand même, majoritairement, ou
ah ouais,
il y a quand même des filles?
Très masculin, il y a très peu de filles. Dans leur équipe, il y en avait une. D'ailleurs, l'histoire n'a pas trop retenu son nom. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, après, vraiment le point crucial, c'est finalement la sécheresse de 1975.
Alors, qu'est-ce qui se passe cet été-là? Point météo. Californie.
Point météo.
Il fait chaud.
Attention, vous êtes notre Louis Baudin.
C'est ça. Alors, en France, vous vous souvenez, c'est plutôt l'été 76. Bah, oui. Vous transposez l'été 76 en France, en Californie.
D'accord.
Et du coup, il y a des mesures de restriction d'eau. Donc, toutes les piscines des résidences privées sont vidés, les fossés de drainage aussi. Et du coup, qu'est-ce que font ces petits jeunes? Ils aperçoivent ces piscines vidées et ils se disent « Ah bah tiens, nouveau terrain de jeu !» Et hop, ils escaladent les barrières, ils se lancent dans les piscines et ils s'éclatent. Et c'est comme ça que naît la pratique du bol d'ailleurs.
Et donc, et aussi, ils vont surfer sur les rebords, c'est ça, des piscines? Ça, c'est une figure?
Alors, en fait, ils veulent tellement aller vite, tellement aller haut, tellement aller plus loin que, sans le savoir, ils inventent une nouvelle figure qui consiste effectivement à s'envoler avec la planche et à déborder finalement le rebord de la piscine et à retomber dans la piscine. Donc ça s'appelle le frontside air. On le doit, l'histoire le dit, à Tony Alva. Et donc le frontside air, c'est en fait un demi-tour avec la planche au-dessus du sol. Quoi.
Ouais, donc ça fait 45 ans tout ça, si je compte bien, 40 ans pour cette sécheresse de 75. Est-ce qu'on invente encore des figures? Est-ce que les champions qu'on va voir ce week-end à Marseille, ils inventent encore?
Ils n'arrêtent pas d'innover en fait. Ils continuent à innover. Les figures, je ne peux même pas vous dire la liste de figures qui existent.
Ça se compte par centaines?
Ouais, peut-être pas par centaines, mais en tout cas par plusieurs dizaines. Elles sont souvent en anglais. Et en fait, le but du jeu, c'est effectivement de laisser presque son nom à sa figure.
RTL. De 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Et toujours avec nous, Gaëtan Morin, chef de service au Parisien Week-end. Vous publiez, je le rappelle, en partenariat avec RTL, un article sur l'origine du skateboard à l'occasion d'une compétition qui commence demain à Marseille. Tiens, ce tournoi, il va peut-être faire naître des vocations. Est-ce qu'on a deux, trois conseils à donner aux parents dont les gamins ou aux grands-parents dont les petits-enfants débutent en skate? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre?
Peut-être d'abord les protections pour les genoux, pour la tête. Ouais, parce que quand même, il faut imaginer les gadins. Hein. Nos trois jeunes des années 70, ils étaient quand même bien amochés et bien cabossés. Il faut d'abord protéger les enfants.
Est-ce que les enfants acceptent de se laisser protéger? Est-ce qu'ils partent avec leur... C'est comme les enfants qui enlèvent leur cagoule l'hiver devant l'école.
Ça, ça sent le vécu.
C'est clair.
Boniro, si tu nous écoutes, ta maman en a marre que tu retires ta cagoule devant l'école.
Après, c'est comme pour le vélo. Hein. Faut quand même se protéger. Non, après, sinon, il faut demander à la Fédé. Je pense qu'il y a des cours aussi de skate. Et puis surtout, il y a les skateparks. Donc il y en a partout en France. Il y a celui donc du Prado qu'on va voir ce week-end
à Marseille
exactement. Mais il y en a d'autres hein, un peu partout. Et donc le skatepark c'est un bon moyen de se familiariser avec cette pratique.
Gaëtane Morin, dans votre article du Parisien Magazine, du Parisien Week-end, les vieilles habitudes qui reviennent, vous racontez l'histoire des pionniers du skate. On en a parlé, qui font décoller ce sport à la fin des années 70. C'est trois garçons, trois potes, Jay Adams, Tony Alva et Stacy Peralta. Ils vont s'affronter en 1977. Ça sera à quelle occasion ?
Et ben en fait, ça va être les premiers championnats du monde de l'histoire, en tout cas reconnus comme tels. Donc grand concours à un moment où vraiment le skate décolle complètement. Donc il y avait quand même pas mal de concurrents. Alors Jay Adams, qui est un peu le puriste, le rebelle, peut-être le plus réfractaire aussi à l'autorité, aux normes et tout ça. Jay Adams va être mis hors concours très vite.
Il sera pas à la hauteur ou...
Non, je me souviens plus exactement du problème qu'il a eu, je me demande si sa planche était conforme, enfin quelque chose comme ça.
Qui gagne
alors c'est faites vos jeux.
C'est un des trois quand même.
Voilà, c'est Tony Alva qui gagne. Tony Alva, alors lui c'est le mec un peu bling bling, ça lui a un peu monté à la tête et il a d'ailleurs créé sa marque de vêtements à 19 ans. Il en avait marre d'enrichir les sponsors, donc il a décidé que ce serait tout pour lui. Et donc il arrive, il prétend qu'il est le plus fort et de fait il est le plus fort. Mais il a même failli perdre un œil quand même parce qu'il s'est
perdre un œil.
Il s'est battu avec un des concurrents. Justement parce qu'il l'a ramené un peu trop et il a failli perdre un œil dans l'histoire. Mais
dans
bon, voilà.
Il va aussi s'essayer à la musique, ce Tony Alva, comme bassiste d'un groupe, The Scoundrels. Écoutez bien, attention, ça dépote. Voilà, avec ça, la sieste est impossible à 14h26 sur RTL. C'est le skate punk dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça, exactement. D'accord, c'est okay. Le début.
Ben, c'est la première fois.
J'ai cru que j'allais dire peut-être... le skateboard.
Voilà, c'est peut-être la dernière fois que j'en écoute. Qu'est-ce qu'ils viennent, les autres pionniers? Vous parliez de Jay Adams, là, ce réfractaire, ce rebelle. Sa vie, elle tourne comment
Lui, c'est un peu le bad boy de la bande. Oui. Donc, très vite, il est rattrapé. Il fait des petits larcins, des cambriolages. Et donc, il est rattrapé.
Et de la drogue,
vous avez raison. Il sniffe un peu trop de cocaïne. Et bah donc il fait quelques séjours en prison, pas mal d'allers-retours. Finalement, il finit par être clean sur la fin de sa vie, mais en 2014, il décède d'un arrêt cardiaque. Et je tiens à souligner qu'il a quand même fait l'objet à ce moment-là d'un article très long, d'une page entière dans le New York Times. Ce qui quand même est une manière aussi de reconnaître la culture skateboard finalement à travers lui.
Est-ce qu'ils ont été célèbres dès les premières années, ces trois garçons-là, ces trois pionniers dont on parle? Ou est-ce que c'est finalement quand même un petit milieu, la Californie, le milieu du skate?
C'était un tout petit milieu au début. Ouais. En plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein.
Bien sûr, ouais.
Mais sur la fin, non. Aujourd'hui, c'est vraiment mythique. C'est la référence de n'importe lequel des skateurs d'aujourd'hui. Ils ont inventé le skate moderne. C'est des légendes.
Et d'ailleurs, ils feront l'objet de deux films dans les années 2000. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et puis, il y a un autre film.
Il y a un film qui a quand même boosté le destin du skate. Ah, tiens, un film de science-fiction. Je vous donne un indice. Écoutez. Bon, c'est trop facile cet
c'est
indice. Quoique je vois des nez un peu froncés
non,
dans
si,
le
c'est
studio.
Trop facile.
Et puis juste après ce retour vers le futur. Ah bah j'ai donné le nom.
Ah bah
on
ouais.
Se fait plaisir avec l'histoire du parfum. Tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
Qu'est-ce que j'entends? Mes horloges?
Oui.
14h, 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Je le rends tout de suite, d'accord?
Sur les terrasses et les esplanades, la planche à roulettes donne déjà cette sûreté et cette élégance qui sont l'apanage du parfait surfeur.
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Ah, Retour vers le futur, ça fait toujours du bien d'avoir un petit extrait de ce film. Comment le skate, la planche à roulettes, est devenu un loisir de masse, un art de vivre et un sport qui sera olympique dans 2 ans aux JO de Tokyo. C'est ce que nous raconte la journaliste Gaëtane Morin. Avec donc ce film Retour vers le futur, bon, peut-être que certains de nos auditeurs ne l'ont pas vu. Pourquoi ça booste l'histoire du skateboard?
Parce que pour retourner vers le futur, le héros de l'histoire, en fait, utilise un skate volant. Qui devient...
Un overboard, c'est ça?
Voilà, c'est ça, un overboard. Mmh. Et donc, en fait, c'est vraiment... Finalement, cet overboard devient un objet qui est presque un acteur du film. Et du coup, ça correspond, c'est en 85, donc à nouveau, le skate redécolle. Il était devenu un peu plus atone au début des années 80, mmh. Et là, ça repart... comme jamais.
Il n'a pas été devancé aussi, ce sport, le skate, par la trottinette? On a vu beaucoup de trottinettes dans les skateparks.
Alors là,
je pense que c'est plutôt une déclinaison.
Il y a beaucoup de figures aussi.
C'est plutôt une déclinaison, quoi. C'est-à-dire que ça rentre dans la famille des moyens de locomotion dont on peut faire des sports,
de la glisse,
etc. Et puis il y a ces deux films que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, années 2000, deux films qui racontent carrément l'histoire de nos trois héros. Qui les produit
Forcément l'un d'eux.
D'accord. N'est jamais aussi bien servi de pas.
C'est ça, exactement. Comme ça contribue à la légende. Stacy Peralta devient en fait producteur après avoir fait beaucoup de skate et de surf, et du coup investi en fait dans des films et décide de raconter l'histoire. Donc il sort 2 films coup sur coup. Le premier est un documentaire, c'est Dogtown and the Z Boys,
On fait confiance.
Donc il sort en 2001, il est primé au festival de Sundance. Hein. Il est vraiment, c'est vraiment un documentaire reconnu d'ailleurs, que je recommande, parce que c'est vraiment très très chouette de se replonger dans cette ambiance-là. Il raconte leur histoire, et en 2005, il écrit le scénario d'un film qui est plus une fiction, avec le regretté Heath Ledger, qui joue dans ce film, et qui lui aussi est devenu un film culte, notamment un film de référence pour tous ceux qui aiment le skate, le punk et la culture underground.
Merci beaucoup
Gaëtane Morin. Et on n'aurait pas un petit peu de Scoundrels encore à se refaire, là, histoire de se réveiller un petit coup, là, ce skate punk là, qui fait mal aux
François
oreilles.
François Touchard, qui est notre nouveau François réalisateur, Touchard. Est-ce que vous pourriez nous faire une compilation?
Ah ouais, quand même. Finalement, fin de soirée,
pour
être sûr d'être réveillé avant de reprendre la route, vous voyez.
Ça c'est peut bien être une ça bonne comme idée. Réveil le matin aussi.
Merci Gaëtane, à bientôt dans les
curiosités. Bonne journée.
Bonne journée.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.